Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 de Free, 193 de Bouygues et bientôt sur Orange, canal 172. Ça arrive très prochainement, en tout cas on est ravis de...
Jeudi prochain, exactement Arnaud. 11 avril.
On est ravis de vous retrouver pour parler de golf. On va parler évidemment de la nouvelle victoire de Nelly Korda et nous on aura aussi également Romain Langasque sur notre antenne. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadieu de Journal du Golf. Salut Ben.
Bonjour Jean-Philippe.
Benjamin, petit vénère, tu as eu l'accréditation pour le Masters, le fameux César. Tu as reçu la lettre. Alors raconte-nous un peu cette émotion. T'as ouvert... Est-ce que tu as pensé que tu étais invité?
Non, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Non, mais.
Moments forts de l'année, quoi.
Augustin National envoie toujours son.
Son petit courrier.
Pas à toi, Arnaud.
J'ai pas souvenir que quand j'y avais été, j'ai pas souvenir que les autres années, vous me disiez que vous ayez reçu une lettre.
Si, ouais, l'année dernière, on reçoit un courrier avec le petit logo, tout ça. Enfin, Ben, raconte-nous.
C'est la première fois que je le vois.
C'est des frissons.
Tu l'as très bien raconté, surtout quand j'ai essayé de l'ouvrir à peu près proprement pour pouvoir garder l'enveloppe. Mais voilà, donc on est hyper impatients d'y être parce que c'est la semaine de l'année et même au-delà du golf, c'est quand même quelque chose qui touche. Même les non-golfeurs, donc quand on a l'opportunité d'y aller, forcément on a la gigite, quoi.
C'est Seb Audou qui disait que en photo c'était beau, mais que quand on y était c'était encore plus beau, quoi. Et c'est exactement ça le Master. C'est beau à la télé, mais quand on a la chance d'y aller, c'est fabuleux.
Et justement, le Masters qui sera à vivre sur les antennes de Journal du Golf TV.
On a les droits ?
On n'a pas les droits, mais on va vous faire vivre la fan zone Augusta. Alors, restez à l'antenne à partir de jeudi, 19h. Ça va être incroyable. On va avoir des invités, des jeux concours, des cadeaux. Benjamin Cadieu en direct.
Un concours de précision dans les simulateurs add-on en France. Enfin bon, bref. Ouais. Ouais, on va s'éclater.
Tout pour vivre le Masters, même sans les images, Benjamin.
Je crois que je ferai un gâteau.
Un cookie Masters ou un truc comme ça, non?
Oui, avec un Arnis Palmise.
et puis tout ça avec la recette du pimento cheese, évidemment.
Exactement, la fameuse recette du pimento cheese.
Tu vas nous ressortir la vidéo du pimento cheese.
On va la faire en direct, évidemment.
Mais tu n'es pas au courant, Benjamin.
Non, j'apprends.
Toi, tu pourras aller manger là-bas en direct gratuitement. Et ben nous, on le fera ici aussi gratuitement.
Pour l'anecdote, t'avais cassé du matériel dans la cuisine de l'équipe.
Ce n'était pas moi. C'était je n'avais pas cautionné. Bref,
on n'avait pas cautionné.
On l'avait mangé par contre. Bref, on va parler de Nelly Korda. Nelly Korda qui a gagné sa troisième victoire en trois participations en tournoi sur le LPGA. Ben, toi, t'avais commenté sa victoire au Series Pack Open à Los Angeles.
Et il a commencé le Ford aussi jeudi soir.
Exactement. On l'avait vu remporter ce playoff face à Nelly Korda en début d'année. Face à Lydia Ko, pardon, en début de saison. Bref, plus rien n'arrête, la nouvelle numéro 1.
Non, et d'ailleurs, je voulais rectifier parce que la semaine dernière, on a parlé de 100% de victoire. Moi, j'avais commenté le tournoi des champions, le premier tournoi de la saison. C'est Lydia Ko qui l'avait emporté et Nelly Korda était là. Donc, c'est que 3 victoires en 4 tournois et ça fait quand même 75%. Et c'est surtout 3 victoires sur les 3 derniers tournois auxquels elle a participé. C'est une statistique rarement vue en golf. Donc
c'est un hat-trick.
C'est
hallucinant.
C'est le retour de Nelly Korda au plus haut niveau. Ah bah,
c'est Nosferatu, quel journaliste, qui faisait remarquer que l'écart entre Nelly Korda et la numéro 2 mondiale, Lilia Vu, il y a deux semaines, et maintenant le même qu'entre la deuxième et la 19e. Donc ça prouve à quel point elle a creusé l'écart. C'est une série impressionnante.
Est-ce que Benjamin, tu l'avais vu venir?
Oui, nous en a mis plein la vue. Ouais. Non, c'est toujours épatant de voir une proette aligner les succès comme ça, parce que comme Arnaud l'a dit, c'est hyper rare. Bah, de la voir s'appuyer déjà sur sa puissance au drive, elle prend en photo les drives de ses partenaires. On l'a vu, elle jouait avec Céline, notamment avec Céline Boutier et Lilia Vu lors des deux premiers tours. Ça bat les pitch là où finit la course des mises en jeu de ses deux adversaires au principal au classement mondial. Donc elle s'appuie déjà là-dessus, sur son 1m78, sur son swing qui a... On n'est pas coach de golf, mais bon, on voit bien qu'il n'y a quand même pas beaucoup de fioritures.
Le swing parfait, disait Guillaume Biogeau il y a quelques semaines.
C'est volontairement provocateur, mais en même temps, c'est quand même pas loin d'être vrai. Il n'y a pas de... on voit qu'il n'y a pas de boucle ou de geste.
C'est beau, tout simplement.
Il n'y a rien à enlever. C'est pas la plus grande putter de l'histoire, mais bon, elle est quand même hyper efficace dans la zone de vérité, c'est-à-dire à moins de 6 mètres et notamment sous pression. Quoi.
Et on se souvient justement au Drive-On Championship, ce retour, elle avait fait Eagle Birdie pour forcer le playoff et après gagner.
Ouais, alors qu'elle était en train de saboter le tournoi elle-même. Elle fait la même chose à Palos Verdes au sud de la Californie il y a 2 semaines. Elle a le tournoi en main, elle finit bogey-bogey. Et là, en playoff, alors qu'elle est dans un état de rage. Qu'elle a même pas cherché à dissimuler, elle arrive quand même à planter le drapeau et mettre le putt de 4 mètres sous le nez de Ryan O'Toole.
En fait, on a l'impression que sous pression ou dos au mur,
c'est là où elle est le plus forte, c'est là où ses qualités s'expriment encore mieux. Et puis, elle arrive toujours à rentrer ce petit putt qu'il faut un peu à la Tiger, même si Tiger a un bien meilleur petit jeu que Nelly Korda, notamment un meilleur putting et un meilleur wedging, mais c'est vraiment quand ça compte, c'est là qu'elle réagit.
Championne olympique en titre, hein, on le rappelle, hein, Nelly Korda. Arnaud, impressionnante évidemment. Des moments fabuleux sur Journal du Golf TV.
Bah oui, c'est toujours. On est ravis d'avoir le LPGA et quand on a une championne comme ça qui était un peu en délicatesse l'année dernière avec son physique, même sur le premier tournoi de la saison, elle nous a fait un peu peur, Nelly Korda.
Visiblement. Caillou de sang au bras l'année dernière et des problèmes de dos aussi.
Voilà, et visiblement, les problèmes sont derrière elle. C'est toujours pareil. Bien jouer au golf, c'est compliqué. Bien jouer au golf à chaque tournoi, c'est encore plus compliqué. Mais alors gagner à chaque tournoi comme elle vient de le faire là. C'est quasiment unique dans l'histoire du golf. En tout cas, ça arrive tous les 5-10 ans. C'est impressionnant. Jusqu'où
tout le top 5 était là. Hein. Tout le top 5 mondial était là la semaine dernière. Et c'était 18 joueuses du top 25 mondial il y a 2 semaines. Donc, on va pas dire, oui, c'était un petit tournoi, machin. Bon, c'est sûr que le chevron, le majeur arrive dans 2 semaines.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
C'est là, entre guillemets, où on va tout remettre à zéro. Mais elle a battu, l'élite mondiale à chaque fois.
Le Chevron Open qui est tenant du titre, Lilia Vu, en tout cas ça s'annonce passionnant.
T'es fort en palmarès.
Ouais, exactement. On va écouter justement Rémi Bedu qui va nous parler de Nelly Korda.
Ouais, cette suprématie est impressionnante et c'est même, je crois, mais ça c'est les journalistes qui pourront le confirmer, je crois que c'est même historique puisque je crois que c'est la première américaine depuis Joanna Carnell en 1980, qui avait fait ça, 3 victoires de suite. Donc oui, c'est historique. Et puis je crois qu'une telle suprématie n'a eu lieu que 4 fois. En 2016, c'était Ariya Jutanagard. 2013, Imbi Park. Et 2008, Lorena Ochoa. Donc oui, c'est grandiose.
Rémi, vous aviez eu l'occasion de suivre à Evian il y a quelques années.
Oui.
Est-ce que son swing a changé?
Son swing n'a pas foncièrement changé. Elle est toujours restée sur cette même philosophie de faire quelque chose de simple pour pouvoir être régulière et pouvoir le répéter un geste le plus simple et le plus facile possible. Alors facile, je sais que ça paraît bizarre quand je dis ça, mais voilà, elle n'est pas atypique comme swing, c'est vraiment simple. C'est le mot qu'il faut retenir de son swing. S'il y a quelque chose à apprendre de Nelly Korda, eh bien pour une fois, parce qu'on est toujours, en tout cas les amateurs sont toujours à la recherche de puissance, d'essayer de taper le plus loin possible. Sachez que Nelly Korda est 38e à la statistique de la distance effectuée au drive. Son swing passe avec le driver à 95 miles, alors que la moyenne sur le LPGA est à 94. Donc on voit que ce n'est pas ça qui fait sa force et ce n'est pas ça qu'il faut essayer de copier. Par contre, quelque chose que vous pouvez copier, c'est sa régularité, puisqu'elle prend 77% de green en régulation. Et un des secrets que vous pouvez copier de Nelly Korda, eh bien, c'est sa routine et même sa pré-routine, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'elle fait, avant de démarrer, et on l'avait noté lors des commentaires justement à la télévision, on avait montré que Nelly commence son mouvement en faisant un petit mouvement vers l'arrière, pratiquement jusqu'en face de son pied droit, simplement en bougeant ses épaules et le triangle formé par ses bras. Donc, on voit qu'elle a l'envie de ne pas faire bouger ses poignets, qu'elle ne veut pas démarrer avec un mouvement de poignet. Donc c'est vraiment un démarrage d'une pièce. On voit que son intention, c'est quelque chose de simple et répétable. Voilà, donc simplicité. En plus, on voit bien que ça marche, puisque au sommet du swing, son poignet gauche est complètement plat, la face de club square, et après, elle laisse dérouler son swing par une rotation du corps.
Et pour le joueur amateur, ce démarrage, est-ce qu'il y a quelque chose auquel il faut penser ou comment reproduire ce démarrage?
Alors, trois choses que vous pouvez donc copier. Un, c'est le fait d'avoir une routine. Si vous avez une routine, vous pouvez espérer refaire la même chose et donc être régulier. Ça, c'est en un, avoir une routine. En deux, ce démarrage d'une pièce, le copier, pas forcément parce que chacun va avoir des fonctionnements qui sont différents, mais en tout cas, le démarrage d'une pièce et éviter de jouer avec des mouvements parasites des poignets, oui, c'est quand même recommandable. Et la troisième chose, c'est mon petit conseil en plus, c'est comment le faire. Eh bien, au practice, placez une balle en face de votre pied droit. Et lorsque vous démarrez, vous allez pousser ce que moi j'appelle la balle témoin. Et donc, vous allez la pousser pour un démarrage lent, pour un démarrage le long du sol et pour un démarrage en ligne. Et une fois que vous avez poussé la balle, eh bien, pof, vous allez taper votre balle de jeu. Voilà, exercez-vous à faire ça au practice et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de régularité.
Pour terminer, Rémi, pardon, évidemment, vous n'êtes pas visionnaire ou Nostradamus, mais trois victoires en trois tournois, un swing très simple, un écart qui s'est évidemment creusé au classement mondial. On peut l'avoir parti pour une saison historique, Nelly Korda.
Alors, moi, ce qui me... Et évidemment, vous l'avez dit, ma boule de cristal est en panne, donc je ne peux pas prédire l'avenir. Mais il y a deux autres choses qui me font dire que Nelly Korda est bien lancée pour cette saison. Hormis sa technique et la simplicité de sa technique, on vient d'en parler, c'est pour moi son physique. Elle a un physique qui est athlétique, donc elle est capable de produire de la vitesse, elle est souple, et son physique lui permet une certaine endurance qui va lui permettre de supporter le rythme des tournois. On le sait, c'est important, et on l'espère, grâce à ce côté athlétique, d'éviter les blessures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'elle a un mental dû à son entourage. Vous en avez peut-être parlé, Arnaud, son papa qui est un ancien tennisman, sa sœur, son frère, donc tout son entourage familial vont lui apporter à la fois cette sérénité, cette confiance dont elle va avoir besoin pour enchaîner les tournois et les victoires. Donc pour toutes ces raisons, oui, je pense qu'elle est bien partie.
Voilà Rémi Bedu sur Nelly Korda. Évidemment, on va parler un peu de Céline Boutier aussi, hein, qui était là cette semaine. Céline Boutier qui a un peu de mal à démarrer son année. Elle a fait place.
Elle a fait deuxième quand même.
C'est loin des standards.
Oui, elle a fait 11e au tournoi d'après. Là, elle
s'appelle le golf, Jean-Philippe.
Ouais, elle était à égalité avec Nelly Korda au bout de deux tours. Et voilà, elle a fait un week-end plus compliqué. Voilà. Début d'année, vous êtes dur quand même, Jean-Philippe.
Qu'est-ce qui lui manque à Céline Boutier? C'est du rythme, retrouver ce petit putt qui va tomber en plus, la confiance.
Ouais, moi sur celui que j'avais commenté, c'était le putting qui pêchait, parce que du tee au green, elle avait joué, elle était avec Lydia Ko, je crois, et je sais plus quelle autre joueuse du top 10 mondial, et elle avait joué mieux que les deux autres. Elle avait juste pas rentré un putt, voilà. Donc c'est un peu de rythme, mais encore une fois, comme vient de le dire Benjamin, tout va repartir à zéro si elle plante le chevron ou si elle rentre les putts au chevron et qu'elle gagne.
On espère qu'elle plante le chevron.
On parlera plus d'un début d'année moyen, et c'est même pas un début d'année moyen, c'est un bon début d'année, mais évidemment avec Nelly Korda et avec ce qu'avait fait Céline Boutier l'année dernière, on attend plus, mais voilà, c'est quand même un bon début d'année.
Et voilà, et le LPGA à suivre également cette semaine avec ce tournoi en match play. Arnaud, match play, c'est un format différent. On adore, c'est vrai que chez les messieurs...
On commence par du stroke quand même.
On commence par du stroke et après c'est des quarts de finale, demi-finale.
Après ce sera du match play, c'est toujours hyper spectaculaire. On va se régaler sur Journal du Golf TV toute la semaine. Avec Philippe Lima et Sébastien Audou pour les deux premiers tours et Guillaume Biojo qui viendra suppléer Philippe Lima à partir de vendredi.
Et oui, et ça commence ce soir à partir de Arnaud.
à partir de minuit ce soir.
Mercredi soir.
Alors restez à l'antenne de Journal du Golf TV. Messieurs, on va continuer à parler de golf avec cette nouvelle de Rory McIlroy qui, juste avant le Masters, a décidé de, pas de changer de coach, mais peut-être d'aller voir ailleurs. Un certain Butch Harmon.
Ouais, il a fait du consulting. Enfin, Butch Harmon fait du consulting et c'est pas.
Il avait déjà fait, d'ailleurs.
C'est pas la première fois, ouais, 2021. Il était déjà allé, lui, jeter un œil chez Butch. Mais bon, qui n'est pas passé chez Butch Harmon? À l'époque, Ballesteros était allé voir Butch Harmon. Jean Vandevelde était allé voir Butch Harmon.
Arnautius.
Aussi, oui.
Non, Arnautius n'a pas été voir Butch
Harmon. Non, c'est un peu la Russine, parce que c'est un peu le Benoît du Colombier américain.
Il a quoi? Il a un côté gourou.
Ouais, il va vous rassurer. Et puis, il a très bien compris, comme évidemment beaucoup de coachs, que les joueurs qui viennent le voir, ils savent déjà jouer au golf avant de le voir. Simplement. Une petite tape sur l'épaule, un petit mot à l'arrêt, ça rassure. Après, évidemment, il va revenir. On va voir McIlroy au point presse la veille du Masters, qui va dire qu'il va garder les bras un peu plus devant au niveau du swing. Et deux ans après, ça sera je remonte un petit peu intérieur pour redonner un peu de vitesse de swing. Et puis au final.
Ah, vous savez ça, hein, Benjamin. A changé son swing tous les 6 mois.
c'est juste des petites rustines avant grand rendez-vous. Je crois qu'il n'est pas très content de son jeu de fer, McIlroy, qui se plaint d'avoir deux trajectoires un peu différentes avec les bois et les fers. Et voilà, un coach expérimenté comme Butch Harmon va lui trouver juste le petit truc qui va lui redonner le sourire avant le premier majeur de la saison. Quoi.
Et c'est vrai que Butch Harmon, on l'avait rencontré à Orlando l'année dernière, et même toi, Benjamin, tu l'avais rencontré
à Henderson chez lui. Près
exactement,
de Las Vegas.
Il a un côté solaire.
Il rentre dans la pièce, et tout le monde se tait, tout le monde écoute. C'est aussi avec ça qu'il
c'est le plus grand coach d'argent. C'est le plus grand coach des 40 dernières années, Butch Harmon, donc tout le monde est passé chez lui, donc forcément il a une réputation.
Il n'y a que le train qui n'est pas passé chez lui.
bien Benjamin, jolie celle-là. Rory McIlroy, j'ai pas tout vu de Netflix, mais j'ai juste vu le début. Rory
Full
McIlroy,
swing,
oui, déjà était un peu perdu l'année dernière. Il disait qu'il n'était pas content de son swing. Voilà, il n'a pas gagné depuis le début de l'année. Après, c'est pas le seul. Il y en a aucun quasiment des meilleurs joueurs mondiaux à part Scottie Scheffler qui a gagné cette saison. Donc voilà, il cherche son swing. On sait très bien que de toute façon,
plus de majeur depuis 2014. Hein,
ça, on le sait, mais bon, plus de majeur, mais il gagnait les tournois.
Il n'a pas gagné sur le PGA Tour parce qu'il avait gagné à Dubaï.
Oui, d'accord, c'est vrai. Il a gagné le premier tournoi de la saison, mais sur le PGA Tour, il est quand même assez loin de. Voilà, gagner à Dubaï, c'est bien, mais il n'y a pas les meilleurs joueurs du monde
qui sont
là-bas.
C'est comme Boutier, on s'inquiète pas plus que ça au final, quoi, à la veille du premier majeur.
Moi, je m'inquiète quand même parce que quand on le voit dans Full Swing, il a l'air un peu perdu. Il disait qu'il s'était perdu avec Deschambault en voulant essayer de gagner la distance. Donc, on le sent quand même un peu perdu, le McIlroy.
Et surtout, Benjamin, 10 ans sans majeur pour un McIlroy, c'est quand même long.
Oui,
quoi.
Non, mais ça, de toute façon, on dit chaque année depuis 5 ans.
Comprendre, là.
Ouais. mais il y avait aussi, il disait qu'il a beaucoup bataillé pour le PGA Tour et puis finalement, il s'est rendu compte qu'il s'était fait un peu rouler dans la farine. Ça aussi, ça a dû être assez dur à vivre. Donc, voilà, je suis pas inquiet pour Rory McIlroy. Il va continuer à bien jouer au golf et il va continuer à gagner les tournois, mais. En tout cas, on le sent un peu perdu et c'est vrai que c'est quand même un super mec. C'est une bénédiction de l'avoir dans le golf. Il n'y a plus Tiger ou quasiment plus Tiger. Rory pourrait prendre le leadership, ou l'avait pris en tout cas d'un point de vue médiatique, mais s'il pouvait le reprendre d'un point de vue sportif, moi, j'adore Scottie Scheffler, mais c'est un super joueur, même probablement meilleur que McIlroy depuis quelques temps. Mais en tout cas, c'est pas un leader comme McIlroy, donc on a envie Rory, et puis on aimerait tellement qu'il gagne ce Masters, ce serait tellement fabuleux.
Et du coup, il a fait l'impasse sur le concours de par 3 pour se concentrer à fond sur la compétition. Ça peut.
On le sait déjà.
Ça peut marcher.
Ça peut
marcher. Bah écoute, c'est ce que j'ai vu, ce qu'il a déclaré.
Alors, info, Jean-Philippe Bonnemur, j'ai à surveiller. Hein.
Bienvenue à tous sur les stades de victoire. Trois choses à retenir sur la victoire de Keita Nakajima la semaine passée sur l'European Tour à l'Indian Open. Sur ce parcours qu'on connaît très sélectif du départ, le joueur japonais n'a pas été exceptionnel. Il a gagné 0,06 coups sur le reste du champ. Par contre, au niveau des coups de fer, il a été très performant. Il a fini 26e sur ce secteur du jeu. Ce qui a finalement vraiment donné la victoire au joueur japonais, ça a été le putting avec 2,44 coups de gagné sur ce secteur du jeu par jour. Donc quasiment 70% de sa victoire est due au putting. On va donc passer maintenant à Stefan Jäger sur le PGA Tour. Un Européen qui gagne aux États-Unis, ça fait toujours plaisir. Bravo à l'Allemand. Près de 12 points gagnés sur sa semaine avec deux compartiments de jeu ultra performants. Pour commencer, ses mises en jeu et son jeu de fer n'a pas été exceptionnel. Il a fini 37e et 38e dans ses deux compartiments de jeu, donc rien d'extraordinaire. C'est donc très proche du green qu'il a été vraiment ultra performant. Une 9e place au classement des approches et une 3e place au classement de son putting avec près de 6,5 points gagnés rien que sur le putting. Vraiment une performance énorme sur les greens. Je passe la main à JP pour la suite de ce podcast. À très vite.
On va passer tout de suite au tour européen avec Romain Langasque qui a joué le Masters en 2016.
Qui a passé le cut,
qui avait rentré même un eagle entrant un chip au 15.
Au 15, voilà, ouais, il a fini devant du Victor Dubuisson d'ailleurs.
Ouais,
il me semble.
Je crois que cette année-là, Victor Dubuisson et Romain Langasque avaient passé tous les deux le cut.
Oui,
c'est son premier cut pour Victor Dubuisson. Affaire,
mais je crois qu'il avait terminé devant lui.
Bref, Romain Langas qui a fini 5e en Inde, qui lance un peu son année hein, avec ce top 5.
Bah, en tout cas, il n'avait pas fait, on l'avait dit la semaine dernière, ici on avait fait un point sur les golfeurs français. C'était Hugo Cousseau et Frédéric Lacroix qui menaient le clan français. Et Romain était aux alentours de la 70e place, je crois, du Tour européen. Quand on a failli monter sur le PGA Tour l'année dernière, qu'on était aux portes du top 10, il faut le digérer. Et en tout cas, c'est sûr qu'une 70e place, c'était pas terrible. Après, il nous l'a confié dans son interview. Il a eu des problèmes de santé aussi. En tout cas, il nous le dit, sa saison est lancée. Et comme je dis toujours, vivement la suite.
Et justement, on l'écoute, Romain Langasque. Bonjour Romain.
Salut les gars.
Salut.
Comment ça va? Alors, tu reviens d'Inde après ce bon résultat. C'est un résultat, on va dire, qui va lancer ta saison ou qui lance ta saison.
Ouais, exactement. C'est vrai que le début de saison a été un peu mitigé. J'avais fait deux tournois plutôt corrects, plutôt bons à Dubaï, malgré le fait que j'étais blessé au poignet et j'avais réussi à m'en sortir. Et ensuite, là, il y a eu un petit ventre mou là de 3-4 tournois où je drivais très mal et je putais pas bien. Donc j'ai raté 3 cuts en 4 tournois. Donc c'est sûr que là, même la 21e place la semaine d'avant où j'étais en dernière partie le troisième tour déjà, donc il y a eu beaucoup de bons signes. Et puis là, la semaine dernière, encore une fois, des très bonnes choses. Donc comme tu as dit, ouais, c'est cool, ça lance un peu la saison.
Justement, cette fin de saison dernière, il a fallu digérer un peu cette déception de ne pas avoir atteint ton objectif de monter sur le PGA Tour. Ça a été long pour accepter ou t'es passé vite à autre chose?
Écoute, j'ai eu beaucoup d'émotions après la finale de la race parce que toute la fin de saison dans ma tête c'était le PGA Tour, c'était l'objectif principal et très sincèrement jusqu'aux trois derniers trous du dernier tour j'avais ma chance donc ça c'était ouais, je pense que ça a été un peu dur à digérer, à accepter. Après, avec du recul, ça a resté une très belle saison 2023 et voilà. Après, c'est sûr qu'il y a eu cette blessure au poignet qui m'a quand même bien handicapé en début de saison. Comme j'ai dit, à Dubaï, j'ai réussi à faire 14e et 21e, mais avec le poignet qui était vraiment pas en forme. Et ensuite, en fait, quand mon poignet il a été mieux, j'ai eu du mal à driver et donc du coup à performer. Et voilà. Et puis, il y a eu aussi un changement de caddie il y a 15 jours et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien.
Poignet droite ou poignet gauche, et on sait que c'est quasiment la partie la plus importante chez un golfeur. Ça doit faire peur, une blessure au poignet, non?
Ben en fait, j'ai eu une douleur après la semaine d'après la race to Dubaï en Afrique du Sud, et sincèrement, je l'ai pas prise au sérieux parce que c'était une petite douleur et ça m'empêchait pas de jouer. Et en fait, je suis rentré à la maison et je m'en suis pas occupé. J'ai fait du repos, mais je m'en suis pas occupé. Et en fait, à partir du moment où j'ai repris l'entraînement à Dubaï en janvier, au bout de 4 jours, j'avais la même douleur et qui s'empirait. Et en fait, j'avais une tendinite du tendon ulnaire du carpe. C'est un tendon qui permet de bouger comme ça le poignet. Et en fait, ça, avec les traitements et avec de la, entre guillemets, rééducation, la tendinite, en fait, elle s'est résorbée toute seule, mais ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai tapé des drives pas en fade pendant un mois et demi, 2 mois, qui est la trajectoire opposée de ce que je fais moi normalement. Donc c'est vrai que ça a été assez spécial. Et oui, c'est moi j'ai très rarement eu de blessure dans ma carrière, et d'attaquer une saison avec une blessure, c'est assez compliqué, je dirais.
Donc apparemment c'est poignet gauche, hein, pour ceux qui sont à la radio et qui n'ont pas vu, Romain a montré son sa main gauche. Et alors, pour nous, joueurs amateurs ou journalistes, c'est toujours la même question. C'est plus important la main droite ou la main gauche, le poignet droit ou le poignet gauche?
Je crois que de toute façon, on a besoin des deux. Donc il n'y a pas vraiment de meilleur. Là, pour le coup, ce qui était spécial, c'est que c'était une douleur qui était très localisée. Et dans la vie de tous les jours, j'avais aucune douleur. Et dans le golf, ça me faisait uniquement mal sur le coup de drive. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était localisé au swing de golf et à mon swing à moi. Donc, voilà, il a fallu s'adapter. Il a fallu faire des choses que je ne faisais pas. Et maintenant, je n'ai plus aucune douleur et c'est reparti de l'avant.
Il y a de l'appréhension quand on retape justement des premiers coups en compétition après une blessure comme ça. Est-ce qu'on a peur que ça revienne, cette blessure?
Ouais, moi j'avais beaucoup d'appréhension et même là, il y a 3 semaines quand j'avais plus aucune douleur à l'entraînement, etc. Enfin, j'avais toujours en tête que la douleur, elle pouvait revenir et du coup j'appréhendais beaucoup de taper des grands drives, de rejouer à 100%. Donc ouais, ça prend du temps, mais après il faut faire confiance et il n'y a pas de raison. Mais oui, il y avait de l'appréhension.
Tu nous as parlé un peu de ce blues après Dubaï, de ce blues du PGA Tour. J'imagine que les résultats de Mathieu, évidemment, qui est un pote, ça doit être fabuleux à suivre pour tous les golfeurs français. Mais il doit y avoir encore plus, ouais, peut-être un petit pincement au cœur en disant, bon, peut-être pas que j'aurais pu être à sa place et gagner moi aussi sur le PGA Tour, mais en tout cas, j'aurais pu moi aussi être sur le PGA Tour. Et ça prouve qu'on a tous le niveau pour s'imposer là-bas, en tout cas pour évoluer au plus haut niveau.
Ouais, bah, clairement. Hein. C'est vrai que ce que Mathieu fait depuis septembre l'année dernière, c'est exceptionnel, c'est grand, c'est fort. D'autant plus que c'est peut-être mon ami le plus proche sur le tour. Et on passait énormément de temps, on partageait beaucoup de chambres, de parties de reco, etc. Donc, très sincèrement, c'est un énorme coup de boost et un énorme avantage, je pense, d'avoir un joueur comme ça aussi proche qui fait ça. Ça nous tire vers le haut. Mais c'est aussi un gros vide sur le tour parce que c'était quelqu'un avec qui je passais beaucoup de temps et avec qui, qui n'est plus du tout là, en fait. Donc, non, ça a été aussi ça, hein, une adaptation, je pense, de retrouver mes repères, la vie sur le tour, c'est une vie assez particulière. Et quand tu passes beaucoup de temps avec une personne et que cette personne, elle n'est plus là, il faut aussi trouver d'autres repères. Donc, je pense que ça aussi, ça a été quelque chose qu'il a fallu que je retrouve et que je remette en marche. Mais évidemment que l'objectif, c'est de le rejoindre sur le PGA Tour le plus rapidement possible.
Du coup, ça t'a fait plaisir de le revoir à Singapour, Mathieu?
Clairement, ça m'a fait plaisir de le revoir à Singapour. On partage la chambre au Japon. Et non, c'était top de se revoir. Il nous a invités dans un super resto. C'était très cool. Et je pense que lui aussi, ça lui fait du bien parce que le PGA Tour, c'est le rêve de gamin. Mais je pense pas qu'il y ait que des moments de dingue non plus quand tu te retrouves seul au fond des US. Je sais qu'il y a des moments qui sont aussi durs. Donc, je pense que ça lui a fait du bien à lui aussi. Et j'ai hâte de le revoir.
Tu lui as posé forcément plein de questions. Les Français, quand le retour de Mathieu Pavon sur le tour, c'est les questions fusent. On lui parle de l'ambiance là-bas, de sa victoire. C'est quoi dans le clan français quand Mathieu Pavon revient?
Ouais, clairement, il nous a raconté plein d'anecdotes, plein de ses expériences. De son week-end d'intégration à sa première victoire, à son premier Elevated Events, les gens qu'il peut rencontrer pendant les pro-ams, avec qui il a créé des affinités, toutes ces choses-là, et c'est ultra intéressant et c'est ultra ultra motivant parce que c'est vrai que c'est tu te rends encore plus compte à quel point c'est un autre monde, le PGA Tour. Et voilà, c'est vraiment une autre dimension, j'ai envie de dire, et de pouvoir avoir un retour de l'intérieur par Matt, c'était canon.
Romain, tu viens de dire que vous aviez partagé votre chambre au Japon, même quand on s'est imposé sur le PGA Tour ou qu'on est Romain Langas bien installé sur le Tour européen, on continue à partager sa chambre sur les tournois.
C'est la camaraderie, Romain.
C'est même pas une question d'argent parce que voilà, enfin. Le fait de payer la chambre moitié prix ou quoi, c'est pas du tout le problème. Et même là, je vais vous dire la vérité, c'est que Mathieu ne paye même pas sa chambre au Japon vu qu'il est sponsorisé par ISPS Sanda. Et c'est juste lui qui m'a proposé qu'on partage. Voilà, moi j'ai toujours apprécié partager ma chambre, souvent avec Julien Guerrier et Matt Pavon. Voilà, il y en a, je sais qu'il y en a d'autres comme Alex Lévy ou Antoine Rosner, c'est pas du tout leur délire. Mais voilà, enfin, moi, je sais que là, cette année, je partage beaucoup avec Julien et c'est très appréciable, tu vois, de rentrer le soir, de discuter, d'échanger sur, que ce soit sur ta partie, que ce soit sur le parcours, que ce soit sur, enfin, voilà. Que ce soit la chambre ou que ce soit des maisons, tu vois, au Scottish Open, on a une maison qui est réservée avec Matt, Julien Brun et Antoine. Au British, j'ai une maison avec Matt. Voilà, je sais que moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je déteste être seul dans ma chambre à regarder la télé. Donc, voilà, c'est plus une habitude de vie que financière.
Donc là déjà tout ça c'est planifié déjà. Vous savez déjà où vous allez vous retrouver, au British, au Scottish, plusieurs mois à l'avance, quoi.
Toutes ces maisons, appartements sont réservés. En Irlande, on a aussi une maison qui est réservée avec Julien Guerrier, Antoine Rosner et je crois un quatrième. Enfin, voilà, il y a des tournois où on est à l'hôtel et il y a des tournois, surtout dans les îles britanniques, on va dire, où c'est sympa de faire des maisons aussi parce que les hôtels sont pas forcément ouf et parce que la bouffe est pas dingue non plus. Donc, de cuisiner le soir, même si on fait pas de la cuisine étoilée, bah, c'est sympa aussi. Donc, voilà.
Romain, je crois que c'est chez nos confrères de Golf Planet que tu as dit que le PGA Tour, c'était pas un problème, mais en tout cas que tu allais y arriver. Est-ce que, en analysant ta fin de saison de l'année dernière ou ta saison, est-ce que tu sais ce qui t'a manqué? Est-ce que tu vas faire différemment cette année ou comment tu vas réussir cette année par rapport à l'année dernière?
Écoute, sincèrement, je vais pas faire grand-chose de différent de l'année dernière. C'est tout neuf pour l'instant, mais j'ai un nouveau caddie depuis 2 semaines. C'est un caddie qui a une grande expérience et qui a beaucoup de, enfin qui a eu beaucoup de bons résultats avec beaucoup de joueurs différents. Et là, bon, on a fait 2 semaines ensemble et j'ai fait 21e et 5e. Et je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être me faire faire la différence dans certaines situations où l'année dernière j'ai tilté. Et puis ensuite, non, ça va être. De toute façon, le niveau, ça, très sincèrement, il monte d'année en année, donc ça va devenir de plus en plus dur. Donc, je vais être obligé de continuer de progresser partout dans mon jeu. Mais voilà, enfin, la façon dont j'ai joué on va dire les 2 premiers tours, 3 premiers tours en Inde, ça a été vraiment très fort. C'était vraiment du très haut niveau. Et je pense que avec le niveau que j'ai produit par exemple sur ce tournoi-là, il y a aucun tournoi que je peux envier. Donc non, je pense que je vais continuer dans la même lancée, essayer de continuer de progresser aussi physiquement, pour éviter la blessure et pour essayer de continuer ou de maintenir en tout cas la longueur de balle que j'ai parce que c'est ultra important et je pense que ça va devenir d'autant plus avec le changement de balle dans le futur. Mais voilà.
Justement, ce changement de caddie, à quel moment on prend la décision? On se dit, voilà, là, il me faut un changement. Et comment on choisit? Comment ça se passe?
Écoute, moi auparavant, j'avais eu ma première expérience, c'était avec Axel Bétan qui m'avait aidé sur ma fin de carrière amateur, toute ma première année pro. Et c'est vrai qu'en début d'année, quand il y a eu le reportage sur moi à Abu Dhabi, la semaine d'avant en Afrique du Sud, ça s'était passé moyennement. Et à Abu Dhabi, il avait fait une erreur et en fait, j'avais perdu confiance et j'avais mis énormément de temps à faire le changement, tu vois, genre 8-10 tournois, presque 3 mois. Et ça m'a énormément servi en leçon. Et là, en fait, en fin d'année dernière, il y avait une ou deux situations sur lesquelles je m'étais posé la question de savoir comment c'était, etc. Et j'avais pas pensé au changement, mais je m'étais dit qu'il y avait des moments où ça pouvait être mieux. Et là, en fait, début de saison, bon, j'étais blessé et tout ça, et on a fait des résultats corrects. Et après, il y a eu 2 tournois où je rate 2 cuts. Et en faisant des conneries, je les prends pour moi aussi, hein, on les a fait ensemble, mais en faisant des conneries qui étaient vraiment pas faisables. Et en fait, j'attendais une opportunité dans ma tête. À partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, Romain, s'il y a une opportunité qui s'offre à toi d'un caddie d'expérience ou d'un très bon caddie, tu changeras. Et en fait, c'est ce qui s'est passé après l'Afrique du Sud. Il y a Brandon qui a été disponible et du coup, j'ai fait le changement tout de suite et voilà.
Justement, c'était le caddie de quel joueur? Tu disais, il a caddie des grands joueurs.
Écoute, il a, si je me trompe pas, il a 17 victoires sur le Tour européen et son plus gros joueur, ça a été José Mario Lazabal avec qui ils ont gagné un Masters et il a bossé pendant 4 ans avec lui. Et ensuite, il a eu un autre joueur sur le PGA Tour, je me rappelle plus du nom, mais ils ont fait une belle carrière. Mais après, il a gagné, je crois, 17 tournois sur le Tour européen en tant que caddie avec 9 joueurs différents, tu vois. Donc,
Ça pèse dans la balance, quoi.
ouais, ça pèse dans la balance. Je dirais que c'est un des caddies les plus expérimentés du circuit. Et ça, par exemple, vous me demandez par rapport à Matt, c'est quelque chose que j'ai énormément discuté avec Matt juste avant le changement. Tu vois, je l'ai appelé, on a discuté de ça parce que lui, ça a été aussi pas que ça, mais un des éléments déclencheurs, je dirais, de sa saison l'année dernière, son changement de caddie. Et du coup, et ben, feu vert, on y a été et ça s'est très bien passé. Donc là, il va rester avec moi pour les prochains tournois et pour le reste de l'année.
Romain, tu dis que le niveau est de plus en plus élevé. Pourtant, les 10 meilleurs joueurs du Tour européen sont partis sur le PGA Tour l'année dernière, mais le niveau monte quand même.
Ouais, bah, le niveau moyen, le niveau parce qu'on perd les 10 meilleurs, ok, bon, c'est des mecs qui prétendaient à la victoire, mais le niveau moyen, il augmente chaque semaine et tu vois cette année, je joue avec des mecs avec qui j'avais jamais joué auparavant et qui sont très forts, mecs comme bah, le japonais avec qui j'ai joué la semaine dernière. Vraiment très fort. Svensson, si je me trompe pas de nom, un Suédois, là, j'ai joué avec lui deux tournois. Bon, il en a gagné un, il a fait deux fois deuxième aussi. Bon, c'est des mecs qui, mais bon, c'est des mecs qui avaient jamais mis un pied sur le tour européen et qui arrivent et qui gagnent et qui sont très forts tout de suite. Et j'ai l'impression que ça, il y avait moins, quand je suis arrivé moi sur le tour, tu vois, des profils, bah, comme moi, je suis pas arrivé sur le tour et j'ai pas gagné tout de suite, etc. Donc, je pense que, bah, les jeunes, c'est dur de dire ça, mais les jeunes qui arrivent, ils sont plus, encore plus fort que ce que nous on était auparavant. Je pense avec les préparations qui sont mises en place aussi et les facs universitaires, les fédérations qui deviennent de plus en plus fortes. Et non, je pense que le niveau moyen est vraiment de plus en plus fort.
Romain, t'as coupé ton bouc, c'est dommage, ça t'allait bien.
Ouais. Ouais, bref, ça, ne me demande pas pourquoi ni comment, j'en ai aucune idée. Je me suis tendu en Inde, et je me suis dit, tiens, si je faisais le book, et voilà. Mais ça a plu, j'ai l'impression que ça a plu sur la globalité.
Ouais, top 5 avec un bouc, c'est pas mal quand même.
Ouais, qui sait, peut-être ça reviendra dans l'année. Hein.
La suite du programme, c'est quoi, Romain?
La suite du programme, bah, écoute, là, je suis chez moi en Andorre et je vais reprendre l'entraînement en milieu de semaine prochaine. Je dois monter sur Paris mardi, mercredi. Pour faire mon visa pour le Japon et ensuite pour une journée Puma et après je reprendrai l'entraînement dans le sud de la France et je repars au Japon bah, dans 3 semaines, enfin 2 semaines et demie.
Ok, merci beaucoup Romain. En tout cas, bon courage pour la suite de la saison et ben on se reverra sûrement à Paris d'ailleurs pour cet événement Cobra. Voilà, avec pour parler de plein de choses et voilà.
Et à très bientôt à ce micro pour une victoire. Pourquoi pas au Japon,
ouais.
Devant Mathieu.
Salut. Voilà Romain Langasque qu'on retrouvera du coup au Japon sur le Tour européen. Et messieurs, cette semaine, est-ce que vous savez quel événement se déroule du côté du Médoc?
Oui, c'est pas très dur, on y était l'année dernière.
Le championnat de France des pros avec tous les meilleurs pros français. Et justement, Manon Cambray et Fabio Scarfo y sont pour Journal du Golf. Reportage.
Les championnats de France professionnels messieurs reviennent au golfe du Médoc. Une semaine de grands rendez-vous pour tous les golfeurs français. Parmi les prétendants, Grégory Bourdi est aussi un enfant de la région. Comme à la maison, la compétition représente donc beaucoup pour l'homme de 41 ans.
Beaucoup de choses parce que c'est vrai que c'est quasiment comme à la maison. Donc c'est toujours sympa de jouer un beau tournoi à la maison sur un beau parcours et en plus voilà le fait que ce soit le championnat de France c'est quand même assez prestigieux et il y a encore un très beau plateau cette année donc bien relevé donc voilà pour celui qui va au bout c'est quand même une belle victoire à mettre à son palmarès donc voilà je vais faire le maximum pour aller jusqu'au bout cette semaine.
Ce parcours, le Bordelais le connaît depuis tout petit. Il l'affectionne et le considère comme un des plus beaux sur lequel il a pu évoluer.
Le Médoc, je pense, c'est un des meilleurs parcours de France. Quand il est bien préparé, je pense, un des meilleurs d'Europe. Ouais, c'est toujours un plaisir de jouer des compétitions sur ce parcours-là parce qu'on sait qu'il va être en très bon état et le tracé est vraiment très sélectif. Donc, quand il, voilà, surtout dans des conditions un peu de vent et tout ça, donc c'est voilà, parcours très intéressant, très bon tracé, tout ce qu'il y a de bien pour faire un beau tournoi.
Sans Mathieu Pavon ou Romain Langasque, Antoine Rosner se retrouve numéro 1 du tournoi pour son retour à la compétition après 3 semaines d'absence.
Je suis très heureux d'être ici. C'est vrai qu'après mon opération il y a 3 semaines, j'avais hâte de reprendre la compétition. Donc très heureux de pouvoir le faire ici sur ce beau parcours du Médoc. C'est un très bel événement pour nous les joueurs pro français. Donc voilà, j'espère que la météo sera au rendez-vous et qu'on va pouvoir passer une bonne semaine.
Accompagné de Benoît Ducoulombier, le Parisien profite de l'occasion pour s'octroyer une semaine de travail avec son entraîneur.
Pour nous, joueurs du circuit européen, ce qui est bien, c'est que c'est une semaine assez facile à organiser, pouvoir faire venir nos entraîneurs, nos staffs et pouvoir faire une grosse semaine d'entraînement. On est dans des bonnes conditions, le parcours est bien, donc c'est une vraie semaine de travail, et en plus avec un peu de perf et de pression pour essayer d'aller chercher un titre. Donc non, pour nous, c'est vraiment tout bénef cette semaine.
Sacré chez les amateurs en 2014 à la Boulie et en 2015 aux S, Antoine Rosner se verrait bien récidivé cette semaine.
Ça reste un titre de champion de France, donc c'est quelque chose à avoir. J'ai été champion de France amateur, mais si on pouvait le faire chez les pros, ça serait bien aussi.
Entre bonne ambiance, travail et compétition, les golfeurs français se battront donc de vendredi à dimanche pour la couronne nationale et succéder à Tom Vaillant.
Voilà, merci Fabio et Manon. Évidemment, ce championnat de France Pro, ça faisait un moment qu'on l'attendait. Ça fait maintenant la troisième édition. Ça fait plaisir de revoir tous ces pros français réunis au même endroit.
Ah ouais, surtout qu'on le dit, le golf français va bien, en tout cas va mieux qu'il y a quelques temps. Donc évidemment, il n'y a pas Mathieu Pavon, il n'y a pas Romain Langas, il n'y a pas Hugo Cousseau, mais le niveau est quand même très très élevé. Moi, c'est ce que j'avais dit.
Il y a Grégory Avray qui sera là.
Je m'étais renseigné pour savoir si ça pouvait distribuer des points mondiaux, mais non, parce que c'est un champ franco-français, donc ils peuvent pas apparemment, mais oui, c'est quand même un niveau, c'est plus élevé qu'un tournoi du Challenge Tour. C'est très très fort et si vous êtes du côté de Bordeaux ou du côté du Médoc, allez voir, vous avez
c'est gratuit
et c'est gratuit. Gratuit,
c'est toujours pareil, on peut s'approcher des joueurs comme jamais,
pas trop non plus
comme dans aucun autre sport. Ouais, bah si vous pouvez être à quelques mètres des joueurs et vraiment c'est du très très haut niveau.
On peut même aller cadayer
vous
des
allez
fois.
Vous et des fois vous pouvez même aller cadayer, il y a des
attention aux relous, mais
il me semble que Mathieu Pavon avait cadayé Grégory Avray une époque à un championnat de France pro.
C'est pas Alex Lévy qui avait cadayé Pauline Roussel?
Non, ça c'était au Lacoste Ladies Open de France.
C'était au Lacoste Ladies, d'accord. C'était pas au Schweppes. Parce qu'il y avait le Schweppes avant aussi, faut pas oublier. C'est un chouette épreuve, ça.
Voilà, messieurs, c'est la fin de cette émission. Il faut préparer la prochaine, la spéciale Masters. On vous retrouvera d'ailleurs à Augusta, Benjamin.
Ouais, on a hâte de voir Mathieu Pavon à l'œuvre.
Exactement.
Super hâte.
Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'avoir participé. Et on se retrouve, du coup, la semaine prochaine pour cette semaine qui s'annonce passionnante.